Et c'est sur la route qu'on va le retrouver, Olivier Beauregard, pour parler sport. Olivier, bonjour! Et on parlera retraite aujourd'hui parce que la semaine a été marquée par plusieurs retraites dans le monde du hockey. Là. Ça a été vraiment plusieurs annonces.
Oui, absolument. Puis je pense que celle-là qui a marqué les esprits chez les partisans, c'est au niveau du Québec, là, c'est celle de Piqué Souban.
Mm-hmm.
Pas beaucoup de monde qui s'attendait à son annonce. Là. Je pense qu'on savait qu'il était toujours sans contrat. Mais on disait, ça va être une signature de dernière minute. Il y a des équipes qui vont avoir besoin d'un gars d'expérience comme lui, un gars qui est quand même encore assez jeune, 33 ans. Mais non, ça a surpris son annonce d'accrocher ses patins. Tu sais, il y a plusieurs écoles de pensée sur le cas Piqué Souban. Il y en a plusieurs qui disent que ça fait longtemps que ce gars-là n'a plus la tête au hockey, que c'est un gars qui a plus une carrière médiatique, une carrière d'entrepreneur. Mm-hmm. C'est sa marque de vêtements. C'est un gars qui est très flamboyant, on sait. Mais c'est quand même un gars qui a gagné le trophée Norris avec le Canadien de Montréal. C'est un gars qui a été, un défenseur de premier plan dans la Ligue nationale pendant au moins, 7 à 8 saisons. Là, je pense à son passage avec le Canadien, mais je pense aussi à son passage avec les Prédateurs de Nashville. Cette équipe-là avait atteint la finale de la Coupe Stanley contre les Penguins de Pittsburgh. Puis Piqué Souban était dans l'élite là, des défenseurs à cette époque-là. Il avait même été en nomination pour le trophée Norris une fois de plus. Tu sais, fait que pour moi, Piqué Souban, c'est quand même une retraite hâtive, une retraite qui est arrivée peut-être un peu trop tôt, mm-hmm. mais qui, si on regarde le gros portrait, là, c'était inévitable. Parce que Piqué Souban, malheureusement, c'est pas le gars qui a fait l'unanimité. Tu sais, dans les vestiaires, là, combien de fois on a parlé de lui comme un gars qui dérangeait ses coéquipiers, comme un gars qui prenait trop de place. Tu sais, dans une équipe, là, si tu veux avoir une équipe gagnante, si tu veux avoir une équipe qui est bien soudée, il faut que tout le monde se sente sur le même pied d'égalité. Puis Piqué Souban, malheureusement, ça polarisait beaucoup les discussions. Puis même dans les vestiaires, il y a des histoires, Sébastien, qui n'ont jamais sorti au grand jour, qui concernent Piqué Souban, qui encore aujourd'hui, il y en a plusieurs qui l'ont à cœur. J'écoutais justement là, des gars comme Francis Bouillon parler de la carrière de Piqué, des gars comme Maxime Lapierre qui l'ont côtoyé avec le Canadien, qui disaient ce gars-là, dans le vestiaire, dérangeait parce qu'il prenait trop d'attention.
Okay.
Puis quand c'est un gars de mal, tu sais, il y a des sports que tu veux ça. Il y a des sports comme le football que tu aimes ça avoir des personnalités comme ça. Au basketball, tu aimes ça avoir des personnalités comme ça. Mais au hockey, c'est plus conventionnel, c'est plus la vieille école. Puis Piqué a été capable de quand même changer un peu ce côté-là, c'est-à-dire, tu sais, arriver avec des vêtements un peu plus flamboyants, avoir un code vestimentaire qui passait pas inaperçu. Je pense qu'il a quand même laissé sa marque, puis il a ouvert la porte à une génération d'hockeyeurs entrepreneurs. Je pense à un gars comme Austin Matthews avec les Maple Leafs de Toronto, maintenant, qui a sa propre marque de vêtements, lui aussi. Tu sais, je pense que ça a quand même eu du bon, puis Piqué Souban, ça a été tout un défenseur. À Montréal, là, ce gars-là a été une rockstar, là, tout simplement. Ouais. Tu sais, rappelle-toi, le fameux été où on cherchait le capitaine du Canadien, puis Piqué était dans les cartons, puis finalement, c'est Max Pacioretty qui a eu le Piqué a quand même annoncé donner beaucoup d'argent à l'hôpital de Montréal.
Ouais.
Et encore aujourd'hui, il paye encore pour ça, là, dans le sens où il donne encore cet argent-là. Il est encore impliqué au sein de la fondation. Fait que c'est un gars qui a donné énormément à la communauté, mais c'est un gars qui, malheureusement, voit sa carrière se terminer, peut-être pour plein de raisons, dont le fait qu'il était polarisant, le fait que c'était pas le gars qui faisait l'unanimité dans la Ligue nationale, dans les vestiaires. Ça, c'est malheureux, parce que moi, je pense que Piqué a encore une bonne forme physique, encore du hockey à donner. Tu sais, c'est pas la fin de Piqué Souban, bien au contraire, c'est vraiment, je pense, le début d'une nouvelle carrière avec les médias. C'est un gars qu'on va voir, là. Je te garantis qu'on va le voir à Hockey Night in Canada. C'est le gars qui, à ESPN, il va être appelé à commenter les matchs de hockey. C'est un gars qui va être un peu à la Don Cherry, tu sais, qui va encore une fois être polarisant dans les médias. Il va pas l'unanimité, des fois, il va frustrer les gens, mais c'est un gars qu'on va vouloir continuer de suivre. Ça, c'est sûr à 100%, parce que Piqué, ça reste Piqué Souban. Il a marqué une génération. Il a marqué une génération d'hockeyeurs, une génération de partisans. Puis chapeau à lui, parce qu'il a réussi, là, malgré tout, à faire son bout de chemin. Une autre retraite qui est tout le contraire, dans le fond, c'est un cas complètement contraire, c'est celle de Zdeno Chara.
Ouais, on a peut-être moins envie de le revoir, celui-là. En tout cas, du moins dans l'esprit populaire, là.
Ouais, c'est ça. Écoute, c'est sûr que quand on demande aux partisans de Montréal s'ils ont hâte de voir Zdeno Chara, je te dirais que non. Je te dirais que c'est pas le gars qui était le plus apprécié à Montréal. Pourtant, c'est une carrière phénoménale. pris sa retraite à 45 ans. Écoute, il n'y en a pas beaucoup de joueurs de hockey qui sont capables de se rendre là. Moi, pour moi, Zeno Chara, c'est le modèle de défenseur qui a montré, dans le fond, que si tu es sérieux, si tu t'entraînes, ta carrière peut être prolongée très, très longtemps. Tu sais, ce gars-là, là, il est arrivé, mais c'est un modèle de défenseur qu'on connaissait pas. Un géant, géant complètement, qui était pas le plus talentueux sur ses patins, mais maudit qu'il jouait la game tough. Maudit qui était un gars qui était capable d'appuyer l'attaque. Il a su s'adapter au travers de l'évolution des années au hockey. Moi, c'est ça qui m'a jeté par terre. Tu sais, la conquête de la Coupe Stanley des Blues de Boston en 2009, en 2010, Zdeno Chara a été, pour moi, le gars qui a été, si tu veux, le porte-étendard de la conquête de la Coupe Stanley chez les Blues de Boston. Ce gars-là a leadé ce vestiaire-là. Il a montré la façon de travailler, épaulé par un gars comme Patrice Bergeron. Puis, aujourd'hui, on se rappelle encore de cette conquête-là contre les Canucks de Vancouver. Ça a été une série incroyable, une finale incroyable. Puis moi, je pense que ce gars-là mérite d'être au temple de la renommée, puis pas dans 10 ans, là, au temple de la renommée dans les prochaines années.
Okay.
Parce que c'est un gars qui... Ben, écoute, c'est un gars qui... Ses statistiques parlent de lui-même. Plus de 1000 matchs dans la Ligue nationale, des points à plus finir. Puis comme je te dis, c'est son évolution, Sébastien. Il a été capable de suivre la game. C'est ça,
oui,
souvent, le problème. Quand tu vieillis dans la Ligue nationale, quand t'as des bobos, à un moment donné, la game est rendue trop tough, t'es plus capable de la suivre. Puis tu sais, quand tu regardes un Connor McDavid patiner à côté d'un Zdeno Chara, là, tu te dis comment ce gars-là continue à jouer contre lui soir après soir. Ben, c'est parce que ce gars-là prenait son entraînement au sérieux. Ce gars-là, c'est un exemple dans le vestiaire, mais aussi à l'extérieur de la glace. C'est pour ça qu'il a une carrière aussi longue. Chapeau à lui. Je suis content que les Blues aient décidé de lui accorder un contrat d'un jour pour qu'il puisse prendre sa retraite comme un Blues de Boston, parce que t'sais, on l'a connu, nous autres, à Ottawa. On l'adorait. Je me rappelle, quand il a été changé, ça a été... T'sais, ça a fait mal au cœur. Mais les Islanders de New York l'ont apprécié également. Moi, je pense que c'est la raison pour laquelle ils l'ont signé, même s'il était âgé de 43 ans. Puis, tu sais, dans le fond, le destin a voulu que l'équipe qui a repêché Zdeno Chara aurait été la dernière équipe. Oublie les Blues de Boston, là, il le contrôle un jour, mais c'est quand même, il a terminé sa carrière dans l'uniforme des Islanders de New York. Fait que c'est une belle carrière, chapeau à lui. On peut le détester pour plein de raisons. On peut dire que c'est un gars qu'on aimait détester au centre. Après tout, il touchait la rondelle, puis tout le monde le huait après le fameux incident Max Pacioretty qui a marqué les esprits aussi. Mais pour moi, c'est le leader incontesté chez les Blues de Boston. C'est le gars qui a été probablement un des joueurs les plus respectés à travers ses pairs dans la Ligue nationale aussi. Tu sais, c'est dans le moule chez Weber pas mal, là. Puis même, je te dirais que Zdeno Chara était capable de prolonger sa carrière. Chapeau à lui, c'est un grand qui nous quitte dans la Ligue nationale de hockey, mais j'espère qu'on va pouvoir le voir derrière un banc un jour, ou au moins travailler pour une équipe puis partager ce qu'il a été capable de faire au niveau de sa carrière. Puis en terminant, ben, juste une mention à Keith Yandle au niveau des retraites. Là, Keith Yandle, un autre défenseur qui a annoncé sa retraite cette semaine. Ce qui est intéressant dans le cas de Keith Yandle, c'est que c'est pas nécessairement le gars que il passait comme le plus flamboyant, mais c'est un gars qui a été l'homme de fer. T'sais, il a joué plus de 900 matchs sans jamais se blesser. 900 matchs consécutifs dans la Ligue nationale, faut que tu le fasses. C'est un gars qui a été, phénoménal dans des équipes difficiles. Je pense, entre autres, à son passage avec les Coyotes de l'Arizona. C'était une équipe qui allait nulle part, mais Keith Yandle, c'était quand même un défenseur de premier plan. Fait que, je sais pas, lui aussi, c'est une brillante carrière, mais je pense que ça s'est terminé de la mauvaise façon avec les Flyers. Les Flyers ont peut-être manqué de respect un peu à lui, parce qu'il aurait pu battre un record. Ayant joué le plus de matchs, on a décidé de le laisser de côté. Ça, j'ai trouvé ça un peu, permets-moi l'anglicisme, cheap shot, là. Mais écoute, ça fait partie des décisions. Puis c'est des décisions, malheureusement, je pense, qui ont entraîné à un gars comme Keith Yandle de faire. C'est pourquoi je pense que là, c'est le temps d'accrocher mes patins et c'est le temps de prendre une pause.
Et sinon, tu voulais nous glisser aussi quelques mots en terminant sur Tom Brady et ses frustrations.
Ben, écoute, il y en a qui vont me dire, qu'est-ce que tu veux dire par là, Tom Brady et ses frustrations? Parce que jusqu'à présent, ben, ça va quand même bien pour les Buccaneers. Deux victoires en deux matchs. C'est une équipe qui connaît quand même un certain succès. Mais je vais te dire une chose. Moi, j'ai vu un Tom Brady frustré dans les deux derniers matchs qu'il a joué. C'est un gars qui, je pense, cette année, il se rend compte que c'est peut-être l'année de trop. Pas pour lui, mais pour ce que l'équipe représente. Tu sais, Tom Brady a annoncé sa retraite, si tu veux, l'an dernier, en disant « Je reviens plus », puis il revient. Finalement, il se rend compte qu'à Tampa, là, ben, la ligne à l'attaque, c'est plus la même. On n'a pas investi le même nombre d'argent. Puis c'est ça le pain et le beurre de Tom Brady. C'est ce qui a fait son succès. J'enlève rien au corps arrière qu'il est, là. Ben, tu peux pas être un bon corps arrière dans la NFL si tu n'as pas de ligne à l'attaque solide. Puis c'est ça qui est arrivé avec Tom Brady. C'est là, présentement, ce qu'on a comme, disons, première vue, première anticipation des Buccaneers, c'est une équipe qui est capable de marquer des touchés parce qu'ils sont talentueux à l'attaque. Mais est-ce que Tom Brady va avoir la difficulté cette année à finir ses matchs? Il y a des fortes chances parce qu'il se fait frapper en tabarouette. Mm-hmm. Moi, je pense que ça pourrait devenir un problème. Parce qu'une saison là, de NFL, vous allez me dire, ben oui, c'est 17-18 matchs. Peut-être. Mais ben, 17-18 matchs à te faire frapper toutes les semaines comme il se fait frapper présentement, j'ai l'impression que ce gars-là va un moment donné peut-être dire, OK, moi, c'est en état assez. Si on ne s'améliore pas, je vais peut-être prendre ma retraite. Là, parce que c'est vraiment un problème. Puis j'ai rarement vu Tom Brady aussi frustré dans ses gestes, malgré le fait que l'équipe gagnait. Et ça, la première semaine d'activité, quand les Bucks ont remporté leur match, c'est une des choses qui m'avait frappé, c'est les réactions de Tom Brady. C'était un gars qui avait l'air frustré malgré le fait que son équipe venait de remporter un match. En entrevue après le match, il a dit « On n'a vraiment pas été parfait, il va vraiment falloir modifier notre façon de faire parce que si on veut continuer à performer, ben c'est pas de cette façon-là. » La semaine suivante, un autre match, il joue contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Je te dirais que ce qui a changé le cours de ce match-là, c'est quand son receveur, Mike Evans, a décidé de s'en prendre un joueur de la Nouvelle-Orléans. On a décidé du côté des Saints d'y aller à un certain combat, ce qu'on ne voit jamais dans la NFL. Mm-hmm. Puis ça a complètement changé le vent de côté, parce qu'avant ça, ben les Buccaneers s'enlignaient pour une défaite. Alors, ouais, je pense que ça va être intéressant de suivre ce que les Buccaneers vont faire, parce que s'ils veulent continuer à essayer pousser la carrière à Tom Brady, mais il va falloir lui donner des outils. Puis moi, je pense que la ligne à l'attaque, ça reste quand même un point d'interrogation. Mais tu sais, l'échantillon est basse de Sébastien, là. C'est deux matchs, mais ça reste quand même que j'ai rarement vu un Tom Brady aussi frustré. Puis à l'âge qu'il a, là, pas besoin d'argent,
non.
Pas besoin de continuer à jouer au football. Là. Puis si demain matin, il se dit, c'est assez, je t'ai carré de me faire frapper. Merci, bonsoir, je m'en vais chez nous. Je prends mon chèque. Merci pour la carrière. Je vais être au temps de la renommée l'année prochaine. Je vais être un des plus grands carrières que j'ai jamais eu dans l'histoire. Alors, si les Buccaneers veulent le garder cette année, assurez-vous de le protéger parce que présentement, ça fait tout.
J'ai comme l'impression qu'on va suivre ça au courant de la saison avec toi, Olivier. Un grand merci pour ces précieuses minutes cet après-midi. Puis on se donne rendez-vous jeudi prochain.
Absolument. Puis j'espère que le soir n'était pas trop terrible sur la fabuleuse route de Shawinigan.
Sois prudent là, pour le reste de la route que tu as à faire.
Absolument. Merci, bye-bye.